69 ans, avait été condamné en mars dernier pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse. Aujourd'hui, il a répété qu'il ne comprenait pas sa condamnation dans cette affaire d'agression commise sur de jeunes scouts, et ceci bien avant son arrivée à Lyon en 2002, et dont l'auteur d'ailleurs doit être jugé au mois de janvier prochain. Je vous rappelle que le 7 mars dernier, le tribunal correctionnel avait condamné le plus haut dignitaire de l'Église de France à 6 mois de prison avec sursis. Merci d'écouter RFI, 18h et bientôt 10 minutes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Radio G. 101.5 FM.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue à l'écoute de l'oreille curieuse sur Radio G, c'est maintenant la quotidienne des actualités culturelles et locales. Un jeudi sur deux, on parle cinéma avec Margot et sa chronique d'étoiles plein les yeux, rendez-vous en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, je vous propose une émission gourmande, puisqu'on va parler ce soir de vin bio ou naturel et ou de très bonnes choses à manger, tout ceci à l'occasion du Salon des Angevins qui a lieu ce week-end. C'est à Saint-Aubin-de-Luigné. Merci, j'ai eu peur de me tromper. Et on va voir ça en détail jusqu'à 18h50. C'est Annelie derrière le micro, à tout de suite. Margot, bonjour.
Bonsoir Annelie, bonsoir à tous.
C'est super formel. On se retrouve en deuxième partie d'émission pour parler d'un film. Tu vas nous raconter quoi ce soir ?
Eh bien écoute, ce soir on va apprendre à faire de la ratatouille et à monter élégamment sur un vélo en jupe et talons.
Je ne sais pas quel est ce film, ça s'annonce formidable. Le sujet de ce soir, c'est un salon, je le disais, c'est dimanche, samedi et lundi. Les Angevins. Avec chaque année un salon qui nous permet de découvrir des vignerons et vigneronnes de la région qui travaillent en bio ou avec une approche de vin naturel, vous me corrigerez. L'entrée est à 5 euros, le verre est offert et pour en parler, je reçois Bruno Rochard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes du domaine de Mirbeau à Rabelais-sur-Layon, vigneron.
Oui, oui, tout à fait.
Tout à fait. Il y a également Thomas Urbach, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes vigneron également à Saint-Aubin-de-Luigné.
C'est ça.
Où on va aussi retrouver le salon. Et il y a Guillaume Réveillard, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes chef cuisinier au restaurant Le Pois Gourmand à Angers.
Alors, oui et non.
Non.
Je ne suis pas chef, c'est mon restaurant. Le chef, c'est François-Xavier Goard.
Merci. Donc, Le Pois Gourmand, ça c'est sûr.
C'est sûr.
Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Alors, Les Angevins, c'est un collectif qui rassemble une vingtaine de vignerons, de vigneronnes, situés en Anjou, qui ont le même souci du travail du vin, de faire un vin vivant, si je comprends bien. Il y a une démarche commune entre vous tous, mais j'avais envie peut-être de commencer par vos parcours à chacun et chacune. Bruno.
Eh bien, allons-y. On prend le plus vieux pour commencer. Bonsoir à tous. Moi, je me suis installé en 98. C'est une reprise familiale derrière mes parents sur un domaine qui était en polyculture élevage à l'époque. J'ai repris que la partie vigne avec 9 hectares en 98. Aujourd'hui, je suis à 6 hectares. Donc, j'ai arraché tout ce qui ne me semblait pas intéressant. Et j'ai complètement modifié le système, sachant qu'à l'époque, c'était une clientèle particulière qui était principalement livrée en Bretagne, Sarthe, Normandie, comme ça se fait traditionnellement en Anjou, et une partie à la coopérative de Brissac. 2006, j'ai fait le choix de diminuer de surface, de passer en bio et de modifier mon système de commercialisation. Donc aujourd'hui, je rends principalement à des professionnels, restaurateurs entre autres, et puis cavistes et un peu d'export. Et autrement, deux temps forts pour vendre les vins aux particuliers. La porte ouverte tous les ans et aux Angevins.
Et alors Thomas, vous avez un parcours un peu différent parce que votre installation en tant que vigneron, elle est plus récente.
Elle est beaucoup plus récente. Beaucoup je suis installé depuis l'année dernière, après avoir travaillé en milieu culturel.
Culturel de style...
Musée. Animateur, médiateur culturel en musée. Donc responsable d'expos, de parcours de visite, etc. Décidé de me reconvertir il y a une dizaine d'années dans le milieu viticole. J'ai donc bossé depuis presque 10 ans comme salarié viticole dans plusieurs domaines, dont un bon nombre de domaines qui exposent aux Angevins, dans le coin, en Anjou, et puis avec d'emblée la perspective de m'installer, enfin, en tout cas pas la perspective de rester salarié viticole toute ma vie, ça, c'était une évidence, et du coup j'ai eu l'opportunité de trouver une première parcelle l'an dernier, en printemps 2018, qui me permettent de sortir cette année seulement mes premiers vins issus de la vendange de 2018.
Voilà. Et alors Guillaume, vous n'êtes pas vigneron?
Non, mais j'aime le vin.
Et oui, ça a à voir avec la cuisine. Peut-être en quelques mots nous parler de votre parcours.
Bah, le parcours, moi, c'est l'école hôtelière à Saint-Nazaire, et puis travailler dans différents restaurants, une petite parenthèse dans le vin en tant que caviste sur Angers, et puis en 2010, ouverture du Pois Gourmand. Donc voilà, cuisine bistrot, produits principalement locaux, voilà. Et des vins en bio.
Et des vins en bio, oui. Le principe des Angevins, que ce soit le collectif et le salon ce week-end, c'est de rassembler des personnes autour d'une démarche commune. Comment vous la nommeriez-vous ?
Oh, il y a différentes façons de la nommer. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de... Alors, une chose est sûre, c'est que tous les vignerons qui sont aux Angevins sont des vignerons certifiés en bio. Alors après, il y a plein de dénominations, il y a les vins nature, il y a les vins propres, les vins vivants, les vins biodynamiques.
Je suis perdu.
Et ben, c'est pas facile effectivement de s'y retrouver. On parle beaucoup de vins nature aujourd'hui, la définition elle est un petit peu propre à chacun. Et il n'y a pas de législation pour l'instant là-dessus. Donc disons que c'est des vins qui... Ouais, vins vivants, moi je trouve que c'est plutôt pas mal dans l'idée.
Parce que... Je pense que ce qui rassemble l'ensemble des vignerons du Salon des Angevins, c'est la démarche commune, la volonté d'avoir des vignes qui vivent de manière autonome, c'est-à-dire pas sous perfusion de produits chimiques, ni sous protection absolue par des produits de synthèse. Donc on en revient à la certification en bio, et puis poursuivre globalement cette logique de raisins vivants en cave, c'est-à-dire avec un rapport, on va dire, plus que prudent aux produits et techniques œnologiques modernes qui sont immenses et où globalement on cherche à les utiliser le moins possible. Enfin,
oui, tout à fait. Et puis la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que si on abuse, ça fait pas mal à la tête, quoi.
Voilà.
Ça, c'est une histoire de sulfite. Enfin, là, on sent que vous, c'est votre domaine, vous savez très bien de quoi vous parlez, mais peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas super penchées sur le sujet, on ne se rend pas forcément compte des différences très concrètes entre le vin qu'on peut trouver sur un marché, qu'on va dire, conventionnel et le vin que vous réalisez.
Alors, c'est vrai que tu parles des sulfites, là, à l'instant. La loi est passée il y a quelques années où il fallait obligatoirement remarquer si le vin contenait des sulfites. C'était plutôt une bonne chose parce que les gens se sont aperçus qu'effectivement, le vin n'était pas fait qu'avec du raisin.
C'est quelque chose qu'on ajoute après la récolte ou
alors, pendant la récolte,
pendant, avant,
pendant les fermentations, après les fermentations, ça peut aller du simple au quadruple, voire beaucoup plus. Et c'est vrai qu'il en était abusé à une époque. Là, on est dans une démarche où les doses sont soit inexistantes, soit toutes petites. Mais le fait de parler sulfite, ça permet de mettre le doigt sur tout ce qui est possible d'ajouter aussi dans le vin. Il y a énormément de choses. Mais on retrouve aussi des molécules de produits de traitement qui peuvent se retrouver dans la bouteille, quoi. Et ça, je pense que ça participe aussi au fait de se faire mal quand on boit des vins comme ça.
On les boit pas.
On les boit plus.
Voilà, un engagement pris par Guillaume. J'ai l'impression qu'on parle aussi beaucoup d'uniformisation des goûts, des saveurs, des réalisations, ou justement de créer des vins avec un peu plus d'imprévus.
Est-ce que c'est... Un peu plus d'imprévus.
Ou en tout cas, des choses moins standardisées.
Ouais, peut-être un peu plus de... Peut-être aussi un peu plus d'identité. Parce qu'on rejoint la démarche initiale des Angevins, qui est de dire tous les vignerons sont différents, ont chacun des parcelles qui entre elles sont différentes, avec un aspect vivant qu'on laisse s'exprimer, donc nécessairement on n'aura pas le même résultat. Et à partir de ce moment où on assume ce choix d'identité très différente, d'autonomie aussi d'un produit vivant, ben nécessairement, on s'écarte de la norme, de l'immense majorité des vins qui sont, pour ainsi dire, des produits issus d'un processus quasi industriel. Mm-hmm. C'est-à-dire avec des recours très encadrés à des process d'élaboration, à des produits. Et les sulfites, c'est à la limite, c'est que la partie très 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 émergée des différentes possibilités techniques qui sont offertes à des vignerons.
Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où, enfin, si on remonte 30 ans en arrière, la plupart des vins étaient effectivement tous les mêmes. Enfin, quand on parlait d'une appellation, par exemple. Là aujourd'hui, si on fait le tour, ne serait-ce qu'aux Angevins, on goûte, on fait une tournée de Chenin sur 20 vignerons et il n'y en a pas un qui est identique, quoi.
Même si c'est sur un territoire de culture qui est très petit, qui est très rassemblé.
Ouais, ouais, tout à fait. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais ça laisse pas indifférent. Avec effectivement des goûts, des arômes qui conviennent pas à tout le monde, mais c'est ça aussi, la diversité, c'est que... Alors certains parleront de défauts, mais... Mais ça rajoute un plus, et puis on s'emmerde pas, quoi, en goûtant ces vins.
Sortir du moule des appellations aussi.
Ouais, oui, il y a ça aussi. C'est vrai que c'est le constat qu'on fait aux Angevins.
J'avais une petite question vraiment de béotienne. C'était, est-ce que... j'imagine bien ce que peuvent changer des engrais, des apports tout au long de la pousse de la vigne. Mais je me demandais si au niveau vendange, ça changeait quelque chose. Est-ce que vous vendangez plus tôt ou plus tard vos raisins? Est-ce que ça allonge ou réduit le temps de fermentation? Est-ce que ça change quelque chose aussi à ce moment-là ou pas?
Sur la récolte, non, je pense pas.
Peut-être plus d'attention, en fait. À partir du... Enfin, j'imagine. Moi, c'est en tout cas la démarche qui me dirige et qui, je pense, est... La plus répandue chez les Angevins, c'est qu'à partir du moment où on accepte que son vin soit relativement autonome, c'est-à-dire fermente avec ses propres levures, vive sa propre vie, on est beaucoup plus attentif à la date de récolte, à la maturité, à la... je sais pas comment on pourrait appeler ça, perfection aromatique, enfin la plus grande qualité aromatique et la plus grande qualité sanitaire de son... Donc ça, c'est peut-être une incidence, en fait, sur la date de vendange. Et puis c'est aussi un début de moteur dans l'élaboration des vins, c'est-à-dire finalement être plus en surveillance, en protection, qu'en choix, en sélection, et puis en maîtrise totale, comme c'est...
Donc on est à l'écoute de l'imprévu, plus qu'à imposer quelque chose.
Ouais, je pense que c'est...
Ouais, et puis c'est vrai que ça se vaut pour tout le travail qu'on fait sur l'année dans la vigne, quoi. Effectivement, on observe plus, on passe plus de temps... On plane pas le truc et effectivement il y a des imprévus. Après la question sur les fermentations, effectivement ça traîne certainement plus que quand on remet des levures, des trucs sur un process qui est très très dirigé et très dirigiste. Donc là ça laisse plus de part à l'aléatoire et ça qui est bien aussi.
On a pas mal parlé de l'aspect du vin, en fait, de comment vous le faites. Dans le salon des Angevins, ce week-end et lundi, et aussi lundi matin. Il y a bien sûr ce travail de la vigne, mais il y a aussi cette démarche, on la retrouve aussi avec la nourriture, parce qu'il y a plein de choses à déguster, à découvrir, des producteurs, on va en parler. Et je me demandais, Guillaume, vous êtes du côté de la cuisine, en fait, comment ça résonne un peu tout ce qu'on a dit, ou ces choses en lien avec le vin, ou comment vous l'invitez-vous dans votre travail?
Sur les produits, juste regarder autour de nous. Enfin, en Anjou, je trouve qu'il y a tout. Alors, où on va dans des grandes enseignes bleues et jaunes, où on se lève plus tôt et on va voir les producteurs autour de chez nous. Donc, du lait, des fromages, les légumes, bien sûr. Enfin, il y a tout en Anjou. Donc, en plus, c'est beaucoup plus intéressant pour... Alors, moi, je suis pas en cuisine, je le répète, c'est le chef qui est en cuisine. mais c'est beaucoup plus intéressant pour un cuisinier, à mon sens, de travailler des produits... de A à Z, tout simplement, plus de plaisir, plus de goût, plus de diversité, et puis comme pour le vin, ne pas avoir un goût uniforme, le beurre est meilleur au printemps, enfin meilleur, plus de goût au printemps que l'hiver, c'est des choses simples à comprendre quand on veut aller discuter avec le producteur et comprendre que la pâture est plus grasse au printemps que l'hiver, tout simplement.
Et est-ce qu'il y a une éducation du public à faire autour de ça, ou vous pensez qu'il est déjà assez averti maintenant ?
Je trouve qu'on va vraiment dans le bon sens. Enfin, moi, je le remarque au restaurant, avec une clientèle jeune ou moins jeune d'ailleurs, mais les gens vont beaucoup plus au marché, enfin, j'ai l'impression. Moi, je fais le marché tous les mercredis matins et on voit tous les âges qui font le marché. Donc, on a quand même des personnes qui sont sensibilisées. Et puis le bio, c'est cher, non. Si on fait le marché, on va voir nos producteurs. Si on achète des produits de saison, et principalement local, si on achète des carottes qui viennent de Pérou au mois de décembre, c'est sûr que ce sera plus cher. Mais si on les achète localement, non, ce ne sera pas plus cher et on aura du goût dans l'assiette, quoi.
Ouais, j'avais envie de rebondir en fait, parce que souvent on entend parler du bio, etc. Mais effectivement, c'est pas juste pour s'embêter, aller chercher des choses plus compliquées ou des choses plus locales, c'est que c'est meilleur. Et aussi en termes d'impact de la production, de toutes ces choses-là. Vous savez que je suis en train de voir le temps qui est en train de passer à toute vitesse. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ce qu'on va pouvoir voir au Salon des Angevins ce week-end. Donc vous serez une vingtaine. 18, je crois, très exactement, vignerons et vigneronnes, avec des démarches très différentes, des goûts très différents aussi. On peut goûter les choses. Et on peut aussi, il y aura du fromage, de la tisane, du café, du miel, tout un tas de choses, avec des producteurs aussi locaux.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a effectivement la partie vigneron, là, les 18-20 vignerons, je ne sais jamais trop précisément le nombre. Il y a une partie restauration le samedi, le dimanche, alors... Les Angevins font des sandwichs.
Qui sont réputés.
On y met des bonnes choses, donc obligatoirement c'est bon. En restauration, Thomas et moi, il y a aussi des crêpes galettes.
Crêpes galettes,
miel. Donc ça c'est pour la partie producteur.
Poisson.
Bien poisson, Tatus qui fait ses...
Tatus qui est là.
Un boulanger, de la bière.
Boulanger, voilà.
Un brasseur, oui.
Ouais.
Café. Café, des tisanes, ça a été dit. C'est vrai qu'il doit y avoir une dizaine d'autres producteurs. Donc on peut manger sur place tout le temps. Et le samedi soir, donc c'est Guillaume du Pas Gourmand qui fait le repas.
Mais qui est complet. Fallait réserver, ce sera sans doute très bon. Je suis au regret de ne pas pouvoir vous inviter à y aller. Après, vous pouvez aller au Pas Gourmand tout
bien
le reste
sûr.
De l'année.
Sans
ce
aucun
restaurant
problème.
Est à Angers, existe, il reste stable.
Voilà, et juste pour compléter le truc, c'est que le samedi soir, ça termine à 19h les dégustations, et on fait un apéro-concert avec un groupe qui s'appelle Radio Foro, donc c'est musique brésilienne, donc apéro fourni par les Angevins dans la petite salle qui est juste à côté. Ça dure une heure et demie avant de pouvoir
passer à table.
Oui, c'est vraiment un rendez-vous autour des saveurs, mais aussi pour se rencontrer, pour discuter. Enfin, la conversation qu'on a commencé à avoir, en fait, on peut aussi venir et parler aux personnes qui sont présentes, aux producteurs, comment on fait.
Ouais. Ah bah on fait d'une manière qui est hyper simple. On rentre,
paye
5 euros, on a un verre et on a toute liberté d'aller papillonner chez les uns, chez les autres.
Ma phrase n'était pas claire, mais je me doutais que c'était très simple.
Ah bah c'est très simple.
Et peut-être, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent enfin sur le vin, à force d'en parler ou qu'on sache?
Ah, Bonne question.
Gentil.
Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les Angevins ont... Là, c'est la 15e édition. En 2015, on a fêté les 10 ans. Donc, voilà, faites le calcul vous-même. 14e alors. Et donc au début, on était peu nombreux dans cette démarche-là. Aujourd'hui, quand même, il y a pléthore de vignerons, notamment en Anjou, qui sont dans cette démarche-là. Et comme disait Guillaume, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il n'y a pas que les vignerons qui sont dans cette démarche-là. Il y a sur Angers quand même un gros paquet de restaurateurs maintenant qui bossent bien. Et puis, il y a plein de producteurs. On peut trouver de tout, quoi. Il y a du cochon, il y a de la volaille.
Une vraie dynamique d'installation, notamment chez les jeunes installés, chez les jeunes agriculteurs, d'ouverture à la diversité et d'assumer le truc, c'est-à-dire de plus rentrer dans une production très formatée. Mmh. Voilà, les portes s'ouvrent, heureusement.
Ça bouge pas mal. Margot, tu voulais réagir?
Non, je voulais juste te dire que je trouvais que ça presque militant de faire ça le week-end qui suit le Black Friday et la débauche de consommation.
Ah oui, tout à fait d'accord.
Je me mets plus raisonnable ce week-end.
Bah oui, parce qu'on n'a pas parlé du prix des choses, de comment vivre. Il y a énormément de choses à dire, en fait. Mais bon, cette émission n'a que 40 minutes. Et après, il y a une chronique cinéma à faire tenir. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Bruno Rochard, Thomas Urbac, vous êtes vigneron. Et... Guillaume Réveillard, vous êtes du Pois Gourmand.
Voilà.
Le patron du Pois Gourmand.
Oui, on peut dire ça.
Qui est un restaurant
en salle. En salle.
Oui,
en
salle. Je m'occupe des achats, du vin.
On n'a pas dit que vous ne faisiez rien. allez découvrir ce qui se passe. Donc, c'est samedi, dimanche à Saint-Aubin-de-Luigné. À la salle Jean de Pontoise. L'entrée est à 5 euros avec un verre qui vous est donné. Comme ça, vous pouvez goûter toutes les choses que vous avez envie de goûter. Je me dois aussi de vous dire qu'on a parlé d'alcool, que l'alcool c'est bon, mais qu'il faut en boire avec modération. C'est la loi Evin et en plus j'y crois. Et ne rentrez pas si vous avez tout bu en voiture. C'est dangereux. Voilà, vous ferez des blagues chez vous. Et on va poursuivre avec un morceau de musique brésilienne pour faire un peu écho à votre programmation. C'est Gilberto Gil. Un peu facile. Merci beaucoup à vous trois.
Bonsoir. Merci.
Merci, bonsoir.
Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Sendo
o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Alô, alô, Realengo! Alô, torcida do Flamengo! Aquele abraço! Olha o breque! Chapinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da favela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro,
se poursuit sur Radio G, le 101.5, et maintenant c'est l'heure de parler cinéma avec D'étoiles plein les yeux, la chronique de Margot. Salut Margot.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et tous. Alors, me revoilà à ce micro pour évoquer un film à partir de quelques extraits. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un événement qui a fait l'actu pendant au moins 48 heures, au début du mois, le 9 novembre pour être précise.
Tu veux bien sûr parler de la chute du mur de Berlin.
Et oui, parce qu'en 2019, on fête les 30 ans de la chute du mur déjà. Et bien ce soir, je vous propose de revenir à un temps que les moins de 30 ans n'ont pas connu. Celui de la partition de l'Allemagne entre la RFA à l'ouest et la RDA à l'est. Et Barbara, le film du réalisateur allemand Christian Petzold, dont nous allons parler ce soir, évoque cette période. L'action se passe dans une petite ville champêtre de l'Allemagne de l'Est en 1980. Je vous propose d'écouter tout de suite un premier extrait du film, la scène d'ouverture, avec les dernières mesures de la musique du générique début. En tendant l'oreille, on perçoit déjà le son d'un vieux véhicule qui se mêle à la musique. En blanc sur fond noir, le titre.
Barbara.
Puis l'image s'ouvre sur le visage en plan serré d'une femme blonde, chignon serré. Ses yeux fuyants trahissent son anxiété, mais son visage fermé dit sa maîtrise d'elle-même. Les portes du bus s'ouvrent comme une libération. Barbara en descend avec d'autres passagers. Elle regarde sa montre et se dirige pensivement vers un banc. L'image en plan large et en plongée évoque celle d'une caméra de surveillance qui suivrait les mouvements d'un suspect. Mais le plan suivant, un homme qui l'observe à travers une fenêtre, révèle qu'il s'agissait d'un plan subjectif et que Barbara est surveillée. L'homme a un regard doux et il porte une blouse blanche de médecin. À son tour, il regarde sa montre.
C'est elle ?
Le médecin se tourne vers un homme en costume sombre, dossier à la main, qui le rejoint à la fenêtre.
Oui. Elle n'aura pas une seconde d'avance, vous pouvez me croire. Elle est comme ça.
Comment est-elle ?
Eh bien, si elle avait 6 ans, on dirait d'elle qu'elle boude.
L'homme se rassoit dans l'ombre.
Elle vit seule ?
Apparemment. Sa détention l'a totalement exclue de son cercle d'amis.
Barbara écrase sa cigarette et se lève. À la fenêtre, le médecin esquisse un sourire sardonique et jette un œil à l'homme de l'ombre.
Je vous présente le docteur Wolf. Elle va travailler chez nous maintenant, en chirurgie infantile. Elle vient de Berlin, de la Charité. C'est elle qui a décidé de venir ici.
Nous nous sommes déjà présentés.
Bien. Nous reprenons avec Weber B. L'hématome est complètement résorbé. Nous allons maintenant pouvoir retirer le drain.
Nous venons d'écouter le tout début du film « Barbara » de Christian Petzold. Ce réalisateur est l'un des fers de lance du nouveau cinéma allemand. Et pour ce film, il a été récompensé en 2012 par l'Ours d'argent de la mise en scène au Festival de Berlin. Le prix était vraiment mérité tant le film s'appuie sur la mise en scène épurée, autant que sur les dialogues, pour immerger le spectateur dans l'atmosphère pesante de l'Allemagne de l'Est et le confronter à l'ambiguïté des personnages. Alors, la scène d'ouverture que nous venons d'écouter est construite comme un dossier de la Stasi. Le générique nous donne un nom, Barbara, qui est aussi le titre du film. Et puis le premier plan, serré sur son visage, peut se voir comme une photo d'identité. Et enfin, le dialogue entre le médecin-chef de l'hôpital et le mystérieux officier de police dévoile brièvement le parcours de cette femme. Pourtant, et c'est là tout l'intérêt du film, même à nu dans un dossier, Barbara ne se dévoile pas. Écoutez ce qu'en dit la comédienne qui l'interprète, la formidable Nina Hoss.
Je ne donne pas tout de suite à voir la nature de mon personnage. Il s'agit de conserver son mystère, de rester dans la subtilité, de ne pas tout dévoiler. C'est ce que recherchaient Christian Petzold et moi.
Cette retenue des êtres est fondamentale dans un régime fondé sur le contrôle que chacun exerce sur l'autre. La dernière partie de la séquence d'ouverture peut d'ailleurs se voir comme une métaphore de cette surveillance de chaque instant. Au début des explications du médecin, l'image montre en gros plan son visage, puis ceux de Barbara et de l'adjointe du médecin. Le spectateur s'imagine alors un dialogue entre ces trois médecins. Mais le plan suivant, plus large, nous révèle qu'ils sont en fait tout un groupe à écouter le médecin-chef. Alors ce procédé de mise en scène, Christian Petzold le répète plusieurs fois dans le film, comme pour montrer la prise de contrôle par le groupe des rapports interpersonnels, ce qui rend presque impossible l'intimité et la sincérité. Le réalisateur explique.
La beauté, l'amour et la liberté étaient empoisonnés par la suspicion. Je voulais que le film se concentre là-dessus. Comment le pouvoir peut-il contaminer l'amour? C'est bien ce qui est en jeu lors de la rencontre entre Barbara et André.
André, c'est le médecin-chef de l'hôpital, celui qui observait Barbara depuis la fenêtre. Écoutons à présent un nouvel extrait du film, la première confrontation entre Barbara et André. Barbara marche vers l'arrêt du bus. La place arborée devant l'hôpital est déserte. Elle tire pensivement sur sa cigarette, les bras serrés contre son gilet de laine. Elle examine distraitement les horaires du bus. Dans le fond, une voiture sort de l'enceinte de l'hôpital. Le plan suivant, en plongée, rappelle par son cadre celui de la scène d'ouverture. Est-ce l'officier de la Stasi qui surveille à nouveau les mouvements de Barbara depuis le bureau d'André? La voiture passe devant elle et sort du champ. Puis elle recule et s'arrête devant Barbara. On découvre André au volant. Il n'a plus sa blouse de médecin.
Je peux vous déposer? J'ai souvent entendu ici. Ça peut durer longtemps.
Barbara, mine fermée, écrase sa cigarette et le rejoint dans la voiture. Dans l'habitacle de la voiture.
Et alors, ça vous plaît? Le boulot? Le service?
Les plans serrés sur leur visage matérialisent le duel feutré qui s'annonce dans ce huis clos.
C'est difficile à dire. C'est mon premier jour.
Vous ne devriez pas vous mettre à l'écart comme ça. Vous singularisez. Les gens ici sont très susceptibles. Berlin, l'hôpital de la Charité, la capitale. Ils le sentent très vite, vous savez. Et n'aiment pas se sentir abaissés.
En fait, c'est pour ça, j'imagine, que vous dites singularisez. Pour qu'il n'y ait pas de doute sur votre classe sociale.
Barbara jauge André, baisse la tête et esquisse un sourire triste, comme pour elle-même.
Croisement, vous auriez dû me poser une question.
C'est pas cette route?
André regarde Barbara. Son visage en plan serré montre de l'étonnement. Mais à quel point est-il fin?
Et que fallait-il vous demander, alors?
Vous auriez dû me demander où j'habite. Mais vous le savez déjà. Vous auriez dû aussi me demander comment j'ai atterri ici. En province. Ça aussi, bien sûr, vous le savez déjà. Ne prenez pas l'air étonné. Vous leur en avez déjà parlé. Vous vous êtes préparé. Et maintenant, c'est moi qui me singularise. S'il vous plaît, arrêtez-vous.
Dans la voiture, Barbara et André se regardent à la dérobée, se jaugent. Sourire crispé de Barbara.
À demain.
Au cinéma, le passé doit être présent, mais il doit demeurer une chose qu'on va ressentir, au moyen d'une phrase ou deux. S'il s'agissait de raconter celui de Barbara, elle deviendrait une figure morte de l'histoire.
C'est ainsi que Christian Petzold, le réalisateur du film Barbara, évoque la construction de son personnage principal. Point de flashback pour évoquer le passé de Barbara. Dans la scène que nous venons d'écouter, ce premier duel de mots et de regards, chacun teste l'autre. Et l'on peut retrouver dans l'attitude de Barbara, attentive aux moindres détails pour souligner l'ambiguïté d'André, l'expérience des interrogatoires qu'elle a dû subir avec la Stasi. Le film fourmille de scènes qui, au-delà de ce qu'elles montrent des actions des personnages au présent, révèlent en creux leur passé. Christian Petzold ajoute
« Pour moi, l'image nous transmet quelque chose, et ce doit être pareil pour le son. Dans Barbara, je voulais qu'on entende l'histoire, qu'on entende qu'on est dans un pays où il y a très peu de voitures, où tout est calme. »
Ainsi, le son du film, notamment hors champ, tient une importance particulière dans le ressenti d'un pays sous surveillance. Le bruit des pas qui approchent, d'une voiture qui s'arrête devant l'immeuble, de portes qui claquent, d'une sonnette stridente. Pour nous en convaincre, écoutons un dernier extrait du film. Barbara est agenouillée près de sa baignoire.
Avec une dimension d'épouvante de l'interprétation de Furtwängler, il ressort de la magie, de force démoniaque et autant de profondeur que de solennité.
Elle écoute la radio et plonge une vieille chambre à air dans le bain. Après quelques instants dans l'eau, des bulles d'air apparaissent. Barbara appuie un doigt dessus pour contenir la fuite, métaphore visuelle de sa condition. La musique prend de l'ampleur et l'image montre à présent un couloir de l'hôpital. L'alignement des portes des chambres évoque immédiatement celui des cellules d'une prison, alors que la musique tragique se déploie. Elle est soudainement interrompue par un claquement hors champ. Par l'embrasure de la porte du vestiaire des médecins, Barbara voit passer une jeune fille violemment escortée par la police. Elle enfile sa blouse et rejoint prestement le cortège. Sans un mot, le visage fermé, elle prend connaissance du dossier de la jeune fille. Celle-ci est maintenue de force sur une table d'examen et André s'apprête à lui administrer un calmant.
C'est bon, vous pouvez la lâcher.
Regard surpris d'André auquel répond le visage décidé de Barbara.
Ils vont te lâcher maintenant.
Barbara se penche vers la jeune fille.
Stella, tu peux essayer de t'asseoir ?
Le cadre de l'image se resserre sur la patiente, accompagnant la relation personnelle qui se noue.
Stella, est-ce que tu peux faire ça ?
Barbara hoche lentement la tête, souriant à sa patiente.
C'est bien, merci.
André sort de la pièce. En plan serré, la caméra suit Barbara qui se penche sur Stella.
Je reviens tout de suite, d'accord ? Tout va bien se passer.
Barbara sort à son tour. Elle retrouve le médecin-chef dans le couloir.
Méningite ? L'éthique ?
Sans doute.
Vous avez trouvé des piqûres ?
Apparemment, elle s'est cachée dans les prés pendant 6 jours. C'est une zone attique, c'est écrit dans le dossier.
D'habitude, je lis toujours le rapport. Je ne sais pas pourquoi.
Il faut préparer une ponction lombaire.
Généralement, Christian Petzold décrit des personnages renfermés chez qui on pressent quelque chose. De la douleur, du regret. Ils se sont érigés une barrière et on va observer le processus d'effritement de cette barrière.
Ces mots sont ceux de Nina Hoss, la formidable comédienne qui interprète Barbara. La dernière scène que nous venons d'écouter est un premier pas dans ce processus d'effritement. Cette séquence qui mêle l'évocation de la liberté avec les bulles de la chambre à air et univers carcéral est aussi la rencontre décisive avec Stella. C'est ce nouveau personnage, maltraitée par le régime et pour qui elle a une empathie immédiate, qui accule Barbara dans un dilemme professionnel et personnel. Car au-delà d'un époustouflant thriller romantique, le film de Christian Petzold est avant tout le portrait d'une femme en proie au doute. À qui peut-elle réellement faire confiance ? Qui peut-elle se risquer à aimer ? Quel avenir veut-elle vraiment ? On se quitte en écoutant l'une des rares musiques du film.
Barbara, un film réalisé par Christian Petzold, est sorti en salle en mai 2012.
Le film est disponible en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes, ainsi qu'en DVD et Blu-ray. Éditeur Pyramide Vidéo. L'édition vidéo propose des bonus intéressants, notamment un entretien avec le réalisateur Christian Petzold et la comédienne Nina Hoss, dont nous avons cité plusieurs extraits ce soir.
Merci beaucoup Margot. Toute la chronique est réécoutable en ligne sur le site de Radio G. On se retrouve dans 2 semaines pour découvrir un prochain film et je suis incroyablement étonnée et heureuse de finir cette émission à l'heure. Il me reste 30 secondes pour vous souhaiter une très bonne soirée, un très beau week-end. Allez donc découvrir le Salon des Angevins à Saint-Aubin-de-Luigné. Toutes les infos sont sur internet et aussi sur le podcast de l'émission. On se retrouve lundi avec Jujubee's Swing Combo, un groupe de musique. Bonne soirée, bon week-end, à lundi.
Radio G 101.5 FM.
Radio G 101.5 FM.